Les auteurs, compositeurs et interprètes sont dans la scène française avec Jean-Marc.
Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, ou comme c'est celui-là qui conquit la toison.
Elle était stagiaire, bonne à tout faire, le café, les photocopies. Moi je la trouvais très jolie.
Des rires j'entends, des cœurs j'entends, des atmosphères. Des clashs dans le tempo, à ne plus savoir que faire, c'est dans le tempo.
Le meilleur de la scène française.
Alors aujourd'hui, la scène française a le plaisir d'accueillir Constance Agneau. Constance est avec nous. Bonjour Constance.
Bonjour.
Alors, Fairy Tall, c'est ton album, hein. C'est ton premier album.
Exactement, oui, premier album. J'avais fait un album autoproduit auparavant, mais ça c'est le premier véritable album produit.
Donc c'est cet album qui va nous servir pour illustrer cette scène française, cet album qui est sorti déjà depuis avril dernier.
Oui,
on va en parler dans un instant, mais je te propose d'en écouter un premier extrait, ça s'appelle « Décrocher la lune » et on se retrouve juste après.
City walls and summer days on the bay. Tous les clins d'œil que tu laisses filer. Fingerprints and grey blue skies on your way. Les hic et les heures que tu laisses tomber. On ira danser, vagabonder. On ira décrocher la lune. Days of gold and time on stones in the bay. Les hic et les heures que tu laisses tomber. On ira danser, vagabonder. On ira décrocher la lune.
Avec nous, donc, Constance Agneau dans la scène française. Constance, tu habites en France, mais tu es née ailleurs. Et cet ailleurs, c'est où ?
Oui, j'ai un parcours un petit peu, on va dire, il y a pas mal de voyages. Je suis née en Côte d'Ivoire. Après, je suis partie au Cameroun, où je suis restée pendant 6 ans. Et puis ensuite, je suis allée aux États-Unis. Je suis arrivée là-bas à l'âge de 6 ans, pour le coup. Et voilà. Et donc, je suis arrivée en France un peu plus tard. Vers l'âge de 22 ans.
Voilà, on en reparlera. Donc, déjà, toute jeune, tu as commencé par voyager. C'est en rapport avec la profession de tes parents ?
La profession de mon père, oui. Voilà. Ouais.
Alors, toi, tu te considères plus française qu'américaine ou l'inverse ? Est-ce que tu as les deux nationalités ou une seule nationalité ?
J'ai les deux nationalités, en fait. Donc, américaine plus par pays d'adoption, le fait d'y avoir grandi. En fait, je suis restée 15 ans là-bas. Et puis, nationalité française à travers mes parents.
Tes premiers pas dans la musique se sont faits comment ? Je crois qu'il y a une petite histoire de piano, vie de grenier. Comment ça se fait
Oui, alors raconte-nous. En fait, j'ai découvert le piano toute petite, je vais avoir 7 ans à peu près. C'était mes parents qui avaient trouvé donc dans un vide-grenier un piano à vendre. Et j'ai tout de suite accroché avec cet instrument. Et donc j'en ai fait pendant 10 ans. Et la musique était toujours très présente autour de moi. Je donnais des petits récitals, etc. toute petite. Donc voilà, c'était vraiment ma première approche, ma première rencontre avec la musique, c'était à travers le piano.
D'accord. Et ce piano, tu l'as toujours ou il a disparu ?
Et non. Il a fini par disparaître dans tous les voyages, etc.
D'accord. Il s'est retrouvé dans un autre vide-grenier, peut-être acheté par un futur ou une future musicienne.
Ça servira à quelqu'un d'autre.
Exactement. Donc après cette expérience de piano, c'est la guitare qui rentre dans ta vie. T'es attiré plus par la guitare. Alors oui. Qu'est-ce qui t'a donné le goût et surtout l'envie de pratiquer cet instrument ?
Mais c'est vrai qu'à l'époque, donc j'étais pianiste dans un groupe de rock et puis progressivement, en fait, à force de regarder mes collègues guitaristes, j'avais envie d'essayer cet instrument, surtout par le côté mobile, en fait, parce que j'étais quelqu'un qui était assez souvent en vadrouille, etc. Donc j'avais envie d'un instrument que je pouvais un peu embarquer avec moi un peu partout, un peu comme une maison sur le dos. Donc, donc progressivement, comme ça, j'essayais un petit peu la guitare des autres, etc. Et puis un jour, j'en ai pris une et la guitare ne m'a pas quittée depuis.
Ouais, donc au départ, c'était plutôt le côté pratique qui t'intéressait, voilà. Parce que c'est vrai qu'un piano sur l'épaule ou en bandoulière...
Oui, c'est un petit peu encombrant, c'est pas,
c'est pas évident. Donc tu as été attiré par la guitare, tu restais donc avec la guitare, et puis il y a des artistes, je fais référence à Tracy Chapman, c'est celle que tu cites en premier, qui t'a donné le goût de la musique folk.
Oui, voilà, en fait, parce qu'il y a toute une scène folk qui était très présente là où j'ai grandi, donc à Washington DC, et donc tous ces artistes folk, que ce soit folk blues ou folk, donc tout de suite ça m'a aussi lancé vers cet instrument, vers la guitare et tout ça. Des artistes comme Tracy Chapman, j'aime énormément effectivement, donc j'ai pu très très rapidement apprendre ces chansons à la guitare.
Donc au début, avant de composer, d'écrire, tu faisais des reprises de Tracy Chapman, oui. D'autres artistes également aussi.
Pas mal de Guns N' Roses, mais ça c'était avec mon groupe de rock en fait. J'ai eu la période Guns, après j'ai eu la période Janis Joplin, puis des standards de blues, de rock.
Fairy Tall, c'est le titre de ton album, je te propose d'en écouter.
Oui.
Dis-moi, est-ce que je le prononce bien, parce que je ne voudrais pas non plus écorcher.
Fairy Tall, c'est très bien.
Bon allez, on va dire ça Fairy Tall, ça veut dire conte de fées, c'est ça non ?
Conte de fées, oui.
Exactement. Ouais. Alors, on va écouter un morceau de ce conte de fées, ça s'appelle L'étourderie, puis on se retrouve juste après.
Pour placer ces trois mots, pas trouvé d'âme exquise qui vaille qu'on lui dise. Je n'ai pas trouvé d'histoire qui soit si passionnante, pas le moindre miroir qui me rende indulgente, ni charme ni silence qui voudrait qu'on les rompe. Pas trouvé la nuance qui aimait qu'on la trompe. Je n'ai pas dit je t'aime une fois dans ma vie, ou bien si je l'ai dit, c'est pas étourderie. Garde la cadence, pas trouver la station pour la correspondance, pas trouver la douceur qui vaille qu'on l'escorte tout au fond de son cœur. Rien trouver de la sorte, pas trouver la notice, ni le bon dépliant, ni les mots que l'on glisse dans le creux d'un instant. Je n'ai pas dit je t'aime une fois dans ma vie, ou bien si je l'ai dit, c'est pas étourderie. Je n'ai pas dit je t'aime une fois dans ma vie, ou bien si je l'ai dit, c'est pas... décidément pas trouvé l'émotion. Je n'ai décidément pas trouvé l'intuition. Jamais de profondeur qui vaille qu'on y plonge. Pas trouvé le menteur qui tiendra ses mensonges. Pas le creux d'une épaule qui vaille qu'on s'y endorme. Et pas de premier rôle dans la vie de personne. Je n'ai pas dit je t'aime une fois dans ma vie. Ou bien si je l'ai dit, c'est pas étourderie. Faudrait que j'apprenne, peut-être à tes côtés si tu as trop de peine. Il faudrait que j'apprenne, peut-être à tes côtés si tu as trop de peine. C'est promis, j'essaierai.
Les auteurs, compositeurs et interprètes sont dans la scène française avec Jean-Marc.
Constance Amiot est toujours avec nous dans la scène française. Elle est venue parler d'elle, elle est venue nous présenter son album Fairy Tall, hein, conte de fées. Alors, raconte-nous ton retour à Paris, puisque tu es revenue à Paris et à l'âge de 20 ans, je crois, ou 22 ans, c'est ça ?
22 ans, et finalement, c'était même pas un retour, c'était surtout une découverte, parce que c'est vrai que la France était pour moi une terre complètement inconnue, où j'y étais passée de temps en temps comme ça en vacances, mais je n'avais jamais vécu dans ce pays. Ça a été surtout ça, ça a été une découverte.
Et pourquoi tu es revenue en France ? C'est toujours par la profession de ton papa, ou alors là, c'était vraiment volontaire ?
Non, pas du tout, c'était mon choix. C'était pour poursuivre mes études supérieures déjà, et puis aussi le fait de se dire qu'on a une nationalité comme ça, qu'on parle une langue, le français, et que j'avais jamais vécu dans ce pays. Donc à un moment donné, j'étais aussi curieuse et j'avais envie de découvrir, de voir comment ça se passait en fait. Donc c'était surtout ça, la soif de découvrir finalement d'où on vient, de voir quelque chose de nouveau, de changer de décor.
Et qu'est-ce que tu gardes, des États-Unis, à part la musique, bien sûr. Est-ce que tu as d'autres, je suppose que tu as d'autres souvenirs, tu as des bons souvenirs, des mauvais souvenirs. Tu gardes quoi de ta période américaine ?
Ah, j'ai quand même j'ai plein de beaux souvenirs, en fait. Il y a aussi tout le... Il y a la culture, que ce soit dans l'audiovisuel, dans la musique, ça c'est sûr. Après, il y a toutes les amitiés que j'ai là-bas, tous les un peu les grands espaces aussi, tous ces paysages en fait qu'on garde en soi, tout un état d'esprit en fait que j'emporte avec moi et que j'emporterai toujours avec moi. Je crois que tout le monde, on a tous une empreinte comme ça des lieux où on a pu vivre, et c'est quelque chose qui reste en nous quoi qu'il arrive en fait. On a beau partir dans d'autres terres et dans d'autres pays, c'est quelque chose qui reste.
Tu garderas en toi toujours un petit bout de l'Amérique, hein.
Oui, ça c'est sûr.
Tu fais des voyages, tu repars un petit peu aux États-Unis ou pas ?
J'y retourne régulièrement, ouais. J'essaye d'y aller tous les ans, en tout cas j'y retourne, ouais.
Alors donc ce retour en France, ton adaptation au début, ça a été assez difficile. Raconte-nous un petit peu.
C'est difficile parce que déjà il faut tout reconstruire, faut rencontrer des gens. Déjà au niveau de la musique, c'était la première fois de ma vie, je me retrouvais dans un lieu où je ne connaissais absolument aucun musicien. Et puis même chose aussi au niveau de la culture musicale française, je ne connaissais absolument rien. Donc j'ai dû vraiment tout refaire, tout reconstruire. Donc c'était à la fois très intéressant parce que de découvrir comme ça différents artistes. Mais par contre c'était étonnant parce que souvent des personnes venaient me voir, tiens, je vais te montrer un album et qui parlait de personnes comme, je sais pas, je donne un exemple, Higelin par exemple, et je ne savais pas qui c'était à l'époque. Et donc ça a été comme ça toute une période où on essaye de refaire entre guillemets sa culture et apprendre plein de nouvelles choses qu'on ne connaissait pas avant. Donc c'est assez génial parce qu'on est vraiment dans la découverte. Et puis après, par contre, on a un petit peu le mal du pays aussi, un peu. Il y a beaucoup de choses qui manquent des États-Unis, donc on est toujours un peu en train de jongler comme ça entre deux cultures, et puis faire des nouvelles rencontres.
Donc c'était presque une nouvelle naissance pour toi.
C'est presque ça, finalement, oui.
Le fait de revenir en France. Alors tu parlais que sur le plan musical, bien sûr, tu as fait des découvertes, tu as découvert donc des artistes que tu ne connaissais pas, puis aussi certainement sur le plan culinaire, un changement radical, là, non ?
Ah oui, ben ça c'est un très beau changement.
Donc là, tu as découvert d'autres plats que tu ne connaissais pas, d'autres saveurs, comme on dit. Hein.
Oui, d'ailleurs, j'ai passé ma première année, en tout cas à Paris, dans la capitale, à essayer de chercher les meilleurs croissants de la ville.
D'accord. Pourquoi les croissants aux États-Unis sont quoi, ils sont plus gros, ils sont moins savoureux?
Ils sont pas aussi bons.
Ah, ils sont pas aussi bons, d'accord. Ouais. Pourtant, je sais pas, c'est vrai, on t'a pas demandé, t'étais dans quel coin des États-Unis?
J'étais dans l'état du Maryland, en fait, juste à côté de Washington, D.C.
Bon, il n'y a pas de pâtissier boulanger français là-bas.
Ah, si, il y en a un qui s'appelle Vie de France, d'ailleurs. Voilà. Donc, j'arrivais à trouver des petites choses, mais c'est pas la même chose. Ça vaut pas les bonnes boulangeries qu'on a dans ce pays.
Bon, je suppose que depuis le temps, tu t'es rattrapé, hein?
Oui, ah oui.
Alors, sur le plan musical, tu as fait la connaissance de deux musiciens qui t'ont aidé. Est-ce que tu peux nous en parler?
Oui, alors en fait, c'est ça qui est aussi magique en musique. C'est finalement des enchaînements de rencontres qui nous amènent dans différents... finalement à avancer dans ce qu'on fait. Donc à l'époque de mon album autoproduit, j'avais rencontré deux musiciens, Nicolas Buffet et Lawrence Collins, qui est un Américain aussi, qui m'ont encouragé à maqueter et puis à travailler sur mes chansons, qui m'ont vraiment motivé, on va dire, pour aller autoproduire un disque. Donc, chose que j'ai fini par faire au bout d'un moment. Parce que c'était aussi à cette phase-là que je voulais peut-être retourner aux États-Unis. Et ils m'ont dit, non, on ne te laisse pas partir tant que tu ne nous laisses pas un petit quelque chose ici en France. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire un premier album autoproduit qui a ensuite atterri sur le bureau de Vincent Frère-Beau chez Tôt ou Tard.
Voilà, donc ça, on va en reparler dans un petit instant.
Oui.
Tôt ou tard, donc, c'est ta maison de disques, hein, d'accord?
Oui.
Le fait de revenir en France, est-ce que tu étais revenu, est-ce que tu avais l'intention de faire carrière dans la musique, de continuer dans la musique ou pas?
En fait, c'était pas du tout, là, j'avais pas du tout l'intention d'en faire une carrière. C'est vrai que la musique était toujours près de moi, parce que je jouais régulièrement. Dès que je pouvais, j'essayais d'aller dans les jam sessions, d'aller voir d'autres artistes, etc. Mais je pensais pas du tout en faire un métier à l'époque. C'était plutôt quelque chose qui... C'était un peu mon meilleur ami, finalement, la musique à ce moment-là. Mais je voyais pas ça comme un métier. C'est vrai que... D'ailleurs, c'est drôle, quand j'y repense, je me dis, si on m'avait dit à l'époque qu'en arrivant en France, j'allais venir pour finalement faire une carrière dans la musique.
Comme quoi, hein.
Je l'aurais pas cru une seule seconde, en fait.
Donc, il y a eu cette rencontre avec ces deux musiciens. On va parler de cet album, Ferital. Donc, on y retrouve de la part des textes un petit peu ta double culture. C'est important,
oui.
C'est important pour toi, je suppose.
Oui, c'est important, en fait. En plus, j'aime bien m'amuser comme ça. J'ai l'impression de... En musique aussi, on a un peu cette chance-là, comme une sorte de village-monde où on pioche un petit peu dans différents pays, dans différentes langues, et on utilise ces langues, c'est un peu des ingrédients pour nos chansons. Et moi, j'aime bien jongler un peu entre l'anglais, le français. J'ai même un tout petit peu de Swahili aussi sur l'album, sur la chanson L'Envol, qui a été réalisée avec Beniwe, en fait, un chanteur du Rwanda. Mais j'aime beaucoup ça, en fait. J'aime bien l'idée de ramener plusieurs pays comme ça.
Comment s'est déroulée la création de cet album? Bon, tu as eu la collaboration de tes deux musiciens. Ça s'est fait comment? Comment on fait franchir le pas pour dire, tiens, bon, là je ne fais pas un album autoproduit, mais je vais faire un album avec une maison de disques. Comment ça s'est passé plutôt?
Alors, en fait, bon, déjà, le premier album autoproduit avait été une très très bonne expérience, en fait, parce qu'on avait beaucoup appris, en fait, du studio, les erreurs qu'il ne faut pas refaire, etc. Et ensuite, ça s'est vraiment construit. C'est un album qui a été très spontané, parce qu'on l'a enregistré en 3 jours, en fait.
Ah oui.
C'est très rapide pour un disque, où en fait on jouait dans des conditions, on jouait tous ensemble en même temps, donc conditions live. Je me suis retrouvée avec des musiciens extraordinaires. On a enregistré à New York, en fait, l'album, avec des musiciens absolument fabuleux. et je leur présentais les morceaux, et puis tout le monde y donnait du sien, finalement, et puis on jouait comme ça, on faisait une prise, deux prises, et hop, c'était dans la boîte. Et c'est quelque chose que je recherchais, c'était vraiment essayer de garder une spontanéité et pas mettre trop de temps.
Donc, si je comprends bien, tu es revenu à New York pour enregistrer cet album. La décision a été prise à Paris, et une partie de l'album ou l'album a été enregistré à New York, alors.
Voilà, oui, oui.
Donc il y a toujours ce mélange de double culture qui ne te quitte
qui
pas,
revient,
qui
voilà.
revient et qui ne te quittera jamais. Alors je te propose d'écouter un autre morceau, c'est le titre éponyme de l'album qui s'appelle Perital.
You need a sun dance. Well that's okay. You need to cool down, and that's okay. You need your own lights, well that's okay. You need to tell the story well, and that's okay. 'Cause I just might run away, I just might break the fairy tale and tell the story well. I just might run. Just might break the fairy tale and tell the story well. Need the fire and the water and the songs in your days. Lean your own eyes on the river calling you, that's okay. Flowers and the stars and the fairy tales. As long as we can fight for what we've shared. You need to write on, well that's okay. You need to hang on, and that's okay. 'Cause I just might run away, I just might break the fairy tale and tell the story well. I just might run away, I just might break the fairy tale and tell the story well. Okay, you need to hang on, and that's okay. You need the flowers and the water, well that's okay. You need the rivers and the edge, and that's okay. 'Cause I just might run away, I just might break the fairy tale and tell the story.
Avec nous toujours Constance Amiot qui est là, donc là tu es à Paris, là, hein, on t'appelle pas des États-Unis.
Oui.
Hein.
Oui.
On va bientôt conclure, alors parlons donc de Tôt ou Tard. Tôt ou Tard, donc cette maison de disques qui distribue, produit ton disque. Alors la rencontre, elle s'est faite comment avec cette maison de disques Tôt ou Tard?
Alors le directeur de la maison de disques qui s'appelle Vincent Frère-Beau, le directeur artistique, avait reçu mon premier album autoproduit. Et puis on s'est rencontrés, on a fait une première rencontre, et puis même chose, on revient à la spontanéité, puisque très rapidement on s'est mis d'accord en disant qu'on avait envie de travailler ensemble. Donc tout ça s'est passé très très rapidement finalement. Et puis après c'est vraiment tôt ou tard, c'est un label indépendant qui fonctionne vraiment comme une petite famille, ce qui est extraordinaire aujourd'hui, ce qui est une grande chance par rapport à quand je vois certains des artistes que je croise qui sont dans des majors complètement écrasés par leur maison de disques. Au contraire, avec Tôt ou Tard, c'est une petite famille. On se croise aussi entre artistes, qui est très sympa, je trouve, de pouvoir croiser ses collègues.
Oui, c'est sûr.
Donc, pour le coup, que ce soit Vincent Delerme ou...
Da Silva aussi, qui est...
Oui, Da Silva, voilà, Da Silva, que j'ai pu voir plusieurs fois. et je trouve ça assez fabuleux finalement, parce qu'il y a vraiment un échange qui se crée tout de suite à l'intérieur de ce label, et quelque chose de très naturel, très authentique, et c'est quelque chose de fabuleux, en tout cas aujourd'hui, de pouvoir avoir ça.
Il reste donc cet esprit d'équipe et de
Exactement.
Famille, c'est ça. Hein
ouais.
Alors,
ouais.
Avant d'aller à Tôt ou Tard, est-ce que tu avais contacté d'autres maisons de disques ?
Oui, avant, c'est vrai que suite à certains concerts que j'avais pu faire, etc., rencontrer différents directeurs artistiques, et effectivement, ça n'avait rien à voir, notamment dans certaines majors où le premier réflexe était de... On passait un morceau, hop, ils regardaient le minutage de la chanson, bon, ça va, 2 minutes 40, c'est à peu près correct pour la radio.
Ou des
choses comme ça qui étaient complètement dans des codes, en fait. C'était, et pas du tout dans un échange humain et artistique, en fait. C'était beaucoup plus commercial, on va dire.
C'était de la marchandise, quoi, en fait. Hein.
Voilà, exactement.
Alors, comment es-tu perçu en France, justement, par la profession et surtout par le public ? Est-ce que tu es au courant ? Est-ce que tu as un aperçu ? Tu es perçu comment ?
En fait, le meilleur retour que je peux avoir, c'est à travers les mails que je reçois régulièrement de certains auditeurs, en fait. Et ça fait toujours chaud au cœur, d'ailleurs, de recevoir des retours comme ça, directs, de certaines personnes. En plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment tous les âges confondus, en fait. C'est vraiment... j'aime bien aussi cette idée-là de me dire que ça peut être une personne de 15 ans, comme ça peut être une personne de 55 ans qui va m'écrire. Voir comment chaque personne, finalement, arrive à s'approprier
voilà.
certains passages de chansons. Comment les chansons leur parlent.
Ouais. Justement, de la scène, tu en fais de la scène sur... Oui. Donc le public, tu vois à peu près les tranches d'âge de...
Exactement, ouais. Et c'est quelque chose que j'ai repéré, c'est qu'il y avait vraiment plusieurs tranches, en fait. J'aime beaucoup cette idée.
Parce que les jeunes, peut-être maintenant, découvrent la musique un peu folk, tout ça, et puis ceux qui sont un peu plus âgés, attention, qui sont entre 45 et 55 ans, eux, c'est un petit peu la nostalgie de d'autres artistes comme Dylan ou d'autres peut-être.
Ouais, c'est vrai que Dylan par exemple est une référence qui revient assez souvent. Après, mais c'est ça aussi, en fait, finalement j'ai une musique qui peut être à la fois très rythmique, donc où on est plus dans le groove d'une chanson, etc., dans le swing, mais à la fois elle peut être le texte peut être un peu plus central, donc pour ceux qui sont plus dans l'écriture du texte et dans l'écoute des chansons à texte, ils peuvent trouver ça aussi. Donc il y a vraiment plusieurs angles d'écoute, je trouve, dans cet album. Et c'est comme ça que moi, en tout cas, je me l'explique, que je me dis qu'il faut y avoir comme ça plusieurs générations qui vont avoir telle ou telle accroche par rapport au morceau.
Cet album, donc, Fairy Tale, tu le définirais comment ? Un album, par moments, un petit peu nostalgique ?
Par moments, sur certains thèmes, il a sa nostalgie. Parce que je parle pas mal de... Bon, c'est un album assez rêveur aussi, qui est un petit peu dans l'appel au rêve, mais qui parle pas mal du temps, du passé aussi, des histoires que l'on laisse un peu derrière nous et que l'on retrouve un peu plus tard. C'est vrai que il y a certaines choses comme ça qui reviennent. Mais oui, il est pas mal porté sur le rêve et la façon qu'on a de pouvoir piocher entre ce qu'on a autour de nous dans notre réalité de tous les jours et puis où est-ce qu'on aimerait voir les choses finalement, où est-ce qu'on aimerait les projeter. D'où aussi, finalement, ça explique aussi un petit peu ce titre « Fairy Tale ». Où je suis un petit peu en train de parler de ces contes de fées qui sont pas forcément réels, mais cette espèce de façon de jongler comme ça entre le réel et le rêve, finalement, c'est un thème qui revient assez souvent.
Donc ça, c'est un album enchanteur, comment hein,
enchanteur, voilà.
Enchanteur.
C'est très bien ça, tiens, je vais garder ça.
Alors avant de clôturer, quels sont les artistes français que tu écoutes ou que tu aimerais rencontrer en général ?
Alors ça dépend des phases, parce que j'ai vraiment plusieurs phases. Je vais écouter du Arthur Ashe, que j'aime beaucoup au niveau de la voix, des textes. Je vais écouter du Da Silva, j'apprécie énormément ce qu'il fait. MC Solar, c'est assez varié. Ouais, c'est vraiment, mais je fonctionne vraiment par phase. Ouais.
Est-ce que tu es diffusé beaucoup dans les radios ? Je parle de la radio, après on parlera de la télé. Dans les radios, est-ce que tu es beaucoup diffusé ?
Il y a eu un bel accueil. Ouais, je peux dire qu'il y a eu. Après, bon, on va pas dire que je suis énormément diffusé non plus, mais je pense qu'il y a eu quand même un accueil assez chaleureux de la part des radios. Ouais.
Par contre, à la télé, moi, bon, à part t'avoir vu dans Taratata, on t'a pas On t'a pas vu du tout, hein, y a aucune...
Non, pas trop,
c'est ça.
Ouais,
hein.
Ouais, ouais.
Avant de se quitter, ma chère Constance, on va parler des projets. Quels sont donc tes projets? Il y a cet album là, mais je suppose que tu travailles déjà sur le prochain.
Sur le prochain, exactement, oui. Ouais,
donc ça fait partie de tes projets pour 2008, 2009. Puis la scène aussi, tu tournes en ce moment?
Oui, alors la scène, en ce moment, il n'y a pas trop de scène, mais justement, on y travaille, parce que c'est quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup, en fait. Parce que pour moi, la scène, c'est vraiment une étape importante et vraiment, ça fait partie de ce métier, quoi. Ce métier sans scène, c'est important.
Est-ce que, voilà. Est-ce que tu vas faire des festivals l'été
Oui, voilà. Oui. Donc, on est en train de se pencher dessus en ce moment, avec l'équipe, justement. Et donc pouvoir participer comme ça à différentes scènes. Et sinon, je suis énormément dans l'écriture
du prochain album.
Sur le prochain album.
Alors, pour avoir toutes les informations, Constance, il y a un site où on peut te retrouver?
Oui.
Alors, allez, vas-y.
Déjà, il y a le site constanceamio.com, tout simplement.
Alors, je précise, ça s'écrit avec un T, mais ça on prononce pas le T. Hein.
Voilà, oui, A-M-I-O-T, Constance Amio.
Donc, le site, quel est-il?
Donc ça c'est www.constanceamio.com et puis il y a aussi un lien sur MySpace aussi.
Tout à fait. Et là tu arrives à dialoguer quand même avec les auditeurs comme tu disais tout à l'heure grâce à MySpace.
Oui, on fait vraiment des belles rencontres et on découvre aussi des choses. C'est un outil fabuleux qu'on a aujourd'hui Internet.
C'est vrai, c'est vrai.
Comme ça, j'ai été amenée aussi à travailler avec des artistes que je ne connaissais pas, mais qui m'ont envoyé des chansons que je trouve intéressantes. Donc, j'ai collaboré un petit peu avec certaines personnes. Enfin, tout ça est en cours. Mais c'est ça qui est important, hein, qu'il faut garder en tête, je trouve. C'est aussi pouvoir échanger, en fait. Et Internet, pour ça, est un outil fabuleux. On a une chance énorme d'avoir ça aujourd'hui.
Mais écoute, on va se quitter. J'espère qu'on aura fait plaisir à nos auditeurs. On te découvre un peu mieux. Bon, là, ça fait un petit moment que nous diffusons tes chansons, mais là, on avait envie de parler un petit peu avec toi, de te connaître. Alors, on retiendra donc que dans tes projets, il y a ce nouvel album. On a une date à peu près, une année, c'est quoi, fin 2008, 2009?
On va dire, pas trop. Oui, fin 2008, 2009, c'est très bien.
D'accord, et puis bon, si vous croisez un jour Constance sur la route aux abords d'un festival ou dans un festival, bien sûr, n'hésitez pas donc à aller l'applaudir. Si tu veux rajouter quelque chose, je peux te laisser 30 secondes.
À 30 secondes, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Je vais souhaiter à tous une très bonne journée, par exemple.
Oui, ça se fait.
Ça se fait. Donc, très bonne journée à tous nos auditeurs.
Constance, on va terminer avec un dernier morceau qui fait partie des plus beaux morceaux qui se trouvent sur cet album. C'est Clash dans le tempo. Par contre, tu peux nous dire deux mots sur Clash dans le tempo.
Deux mots sur Clash. C'est vrai que j'aime bien. Finalement, s'il y a une chose qui revient dans Clash dans le tempo, c'est la dérive des rêveurs. Voilà, c'est moi.
Bon, on terminera sur cette phrase. On reste toujours dans le rêve, dans le conte, grâce à cet album, dont je rappelle, de Constance Amio, Ferital. Voilà, je voulais dire à la française, comme on dit.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Constance, et à bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Des rires, j'entends des cœurs, j'entends des atmosphères. Des clashs dans le tempo, à ne plus savoir que faire. C'est dans le tempo. C'est dans le tempo. Stop le tempo du cœur qui bat, y'a des rêves que t'as laissé filer. Stop le tempo des tigres et tacs, y'a des rires que t'as laissé tomber. Je vois que ça dérive chez les rêveurs, j'entends des rimes chargées d'erreurs. Des rives, y'a plus repères dans l'air du temps, plus rien à faire. Des rires, j'entends des cœurs, j'entends des atmosphères. Des clashs dans le tempo, à ne plus savoir que faire. C'est dans le tempo. C'est dans le tempo. Stop le tempo en dérapage, y'a un monde en manque le repère. Stop le tempo, tourne la page, y'a un monde en langue de vipère. Je vois que ça dérive chez les rêveurs, j'entends des rimes chargées d'erreurs. Je vois que ça dérive, y'a plus repère dans l'air du temps, plus rien à faire. Dérive chez les rêveurs, des rimes chargées d'erreurs. Je vois que ça dérive, y'a plus repère dans l'air du temps, plus rien à faire. Des rires, j'entends des cœurs, j'entends des atmosphères. Des clashs dans le tempo, à ne plus savoir que faire. C'est dans le tempo. C'est dans le tempo. Stop le tempo du cœur qui bat, y'a des histoires qui n'attendent que toi. Stop le tempo qui trompe le temps, c'est vraiment pas juste et tu le sens. Le temps ça va, ça vient, ça fume, ça frime. En plus ça rime, seul l'acido, y'a pas de tempo. Y'a plus d'histoires qui tiennent le rythme. en solo, je suis comme Zorro, je prends le piano, par mon lasso, jazz à guitare qui pique un fardeau, la mise me fait la bise, j'entends pas atterrir. Il pose ses yeux sur moi, sur mon silence, son sourire, sauf le tempo du cœur qui bat, j'entends des rires, des cœurs, des atmosphères, des clashs dans le tempo, à ne plus savoir qu'en faire. Des rires, des cœurs, des atmosphères, des clashs dans le tempo, à ne plus savoir que faire. Des rires, j'entends des cœurs, j'entends des atmosphères, des clashs dans le tempo, à ne plus savoir que faire. C'est dans le tempo, c'est dans le tempo, c'est dans le tempo, c'est dans le tempo, c'est dans le tempo.
Les auteurs, compositeurs et interprètes sont dans la scène française avec Jean-Marc.
Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, ou comme c'est celui-là qui conquit la toison.
Elle était stagiaire bonne à tout faire, le café, les photocopies, moi je la trouvais très jolie.
Des rires, j'entends des cœurs, j'entends des atmosphères, des clashs dans le tempo, à ne plus savoir que faire, c'est dans le tempo.
Le meilleur de la scène française.